Ce qui fait la une, évidemment, en France en ce moment, c'est le remaniement ministériel avec la nomination de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre français, qui va devoir faire face à de nombreux défis et non des moindres. Il hérite des divisions qui ont surgi dans le camp présidentiel avec la loi immigration soutenue par l'extrême droite, entre autres. Et il doit former un gouvernement avec les élections européennes en ligne de mire. Benjamin Biard est politologue au CRISP. Il nous délivre son analyse et ce, à votre micro, ma chère Lucie.
Benjamin Biard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et politologue au CRISP. On vient d'apprendre aujourd'hui que Emmanuel Macron, le président français, a nommé Gabriel Attal au poste de Premier ministre après l'éviction hier d'Elisabeth Borne. Quelle importance peut avoir le choix de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, notamment en ce qui concerne son jeune âge et son historique de collaboration avec le président Macron ?
Alors, il y a plusieurs éléments, évidemment, qui peuvent justifier cette désignation. Il y avait plusieurs personnes qui étaient pressenties pour occuper cette fonction. Gabriel Attal lui-même, il y en avait d'autres. Certains évoquaient Bruno Le Maire, par exemple, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, voire même Julien de Normandie, par exemple. C'est finalement sur Gabriel Attal que s'est porté le choix du président de la République, une personne qui est particulièrement jeune, qui par son âge s'illustre comme premier ministre le plus jeune de la Ve République. Il avait déjà été le plus jeune membre d'un gouvernement de la Ve République lorsqu'il avait rejoint un gouvernement pour la première fois en 2018. Ce sont donc des éléments assez intéressants qui ressortent. Bien entendu, il y a aussi sa popularité. Sa popularité qui, ces dernières semaines déjà, était particulièrement forte au fur et à mesure que celle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se réduisait particulièrement. La sienne était particulièrement bonne et il parvenait encore en décembre à se hisser à la première place du palmarès en termes de popularité, ce qui évidemment est très important pour le président de la République.
Alors, il a été pressenti également lorsqu'il était en fonction au portefeuille de l'éducation. À un moment donné, ce matin, on a pensé que peut-être il allait assumer les deux portefeuilles. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, évidemment, ce sont des tâches particulièrement délicates. On sait que Premier ministre, c'est une tâche évidemment en France comme ailleurs, qui est particulièrement importante en termes d'énergie politique aussi à mobiliser à travers les missions qui sont les siennes, celles d'impulser un nouvel élan dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui n'est pas simple, rappelons-le, compte tenu de l'absence d'une majorité parlementaire forte pour Emmanuel Macron. Il ne dispose pas d'une majorité absolue au niveau parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et puis n'oublions pas qu'en ligne de mire, il y a aussi les élections européennes qui auront lieu au mois de juin de cette année et par rapport auxquelles l'extrême droite du Rassemblement national particulièrement semble particulièrement bien positionnée. Donc il y a aussi un enjeu pour Emmanuel Macron, pour sa liste précisément, de tenter de relancer la dynamique en amont de ces élections européennes, c'est-à-dire aujourd'hui déjà.
Alors c'est ce que j'allais dire, il y a un certain nombre, Gabriel Attal va être confronté à un certain nombre de défis. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu, lister le nombre de défis auxquels il va être confronté pendant cette fin de quinquennat, justement ?
Alors, il y en aura bien sûr un certain nombre. Le principal, me semble-t-il, c'est celui de l'absence de majorité parlementaire. C'est déjà un défi auquel se retrouve confronté Emmanuel Macron depuis juin 2022, c'est-à-dire depuis les dernières élections législatives qui n'ont pas permis à Emmanuel Macron de disposer d'une majorité absolue au sein des deux assemblées parlementaires. Ce qui revient à considérer qu'on a en France un gouvernement qu'on pourrait presque qualifier de minoritaire en réalité. Ça veut dire que pour chacun des textes, notamment de portée législative, qui doit être adopté, qui est voulu notamment par le président de la République, il est nécessaire d'aller au-delà des parlementaires soutenant la majorité pour aller chercher des voix tantôt auprès de la droite traditionnelle, tantôt auprès de la gauche, dont d'ailleurs est issu Gabriel Attal, il est issu du Parti Socialiste, à la base en tout cas, tantôt également auprès de la gauche radicale, voire de la droite radicale ou de l'extrême droite du Rassemblement National. C'est évidemment la plus grande difficulté pour le Premier ministre, ou la Première ministre juste avant lui, Elisabeth Borne, de tenter de rassembler autour de compromis sur des textes parfois qui ne sont pas simples. On l'a vu en 2023, particulièrement au regard de la réforme des retraites dans un premier temps, la loi sur l'immigration dans un deuxième temps, il y a encore quelques semaines de cela, on a vu que c'était des textes très difficiles à faire adopter et qui pouvaient soulever la critique de manière particulièrement intense.
Gabriel Attal succédera à Elisabeth Borne, qui d'avis général a été relativement efficace durant ses 20 mois au poste de Premier ministre. Quel style vous pensez que Gabriel Attal va... Comment va-t-il opérer ?
Alors, évidemment, c'est très difficile d'anticiper la manière avec laquelle il va incarner la fonction d'une certaine manière. J'évoquais sa jeunesse tout à l'heure, un élément important dans ce cadre français bien particulier. On a eu, à travers Elisabeth Borne, la première femme première ministre de la Ve République. On a aujourd'hui l'homme le plus jeune de la Ve République désigné à cette fonction de Premier ministre également. Et donc, voilà, ce sont des éléments importants sur la forme, j'allais dire, ou en tout cas en termes de symbole aussi octroyé. Ce sont des éléments qui vont jouer dans sa manière d'incarner vraisemblablement la fonction. Évidemment, ce sont les prochains mois, peut-être déjà les prochaines semaines, qui nous diront véritablement comment, concrètement, il incarne cette fonction de Premier ministre.
Et donc, par rapport aux réactions, on a parlé un peu des réactions internes à cette nomination. Est-ce qu'on peut parler maintenant peut-être des réactions européennes ou belges ?
Alors, par rapport à ces éléments-là bien précis, il faudrait suivre vraisemblablement déjà des annonces qui ont été envoyées. Je ne pourrais pas vous en faire ici état bien particulièrement. Mais voilà, on a évidemment, lorsque un chef de gouvernement est désigné, traditionnellement des déclarations qui sont émises par les homologues à l'étranger, vraisemblablement généralement des signes d'ouverture, une volonté de collaborer avec ses représentants politiques.
Et pour finir, on sent bien qu'avec cette nomination, Emmanuel Macron cherche à insuffler un nouveau souffle à son quinquennat. Est-ce qu'à titre personnel, vous pensez que ce sera suffisant ?
Évidemment, il fait face à une difficulté très forte. Néanmoins, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron lui-même ne pourra pas être candidat en 2027 à sa propre succession, puisqu'il aura déjà été par deux fois président de la République, et c'est le maximum que permet la Constitution française. Évidemment, ici, il y a une nécessité d'impulser un nouvel élan. Après, je l'ai dit, des réformes compliquées, les retraites et la loi sur l'immigration, qui ont été particulièrement critiquées, particulièrement vivement d'ailleurs, avec le dépôt de motions de méfiance à l'endroit d'Elisabeth Borne lorsqu'il a été question de la réforme des retraites. Ça a été particulièrement loin. On se questionnait sur la viabilité de ce gouvernement déjà il y a quelques mois. Aujourd'hui, Emmanuel Macron fait face à une nécessité de donner ce nouveau souffle, ce nouvel élan à son gouvernement. Évidemment, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y arrivera. Il faudra voir dans quelle mesure il y parviendra, mais les difficultés resteront bien évidemment de taille face à des adversaires politiques, notamment qui sont prêts à remettre en cause le moindre faux pas potentiellement qui pourrait être réalisé par le nouveau Premier ministre, ou chaque législation qui pourrait être adoptée, qui tantôt flirterait trop avec l'extrême droite, on l'a vu avec la loi sur l'immigration, ou tantôt ne serait pas assez légitimée aux yeux d'un certain segment de la société, par exemple syndicale. Je n'irai pas jusqu'à faire de prédictions, bien entendu, mais ce sont des difficultés auxquelles devra faire ce nouveau Premier ministre. Ce ne sera pas facile, à nouveau, parce qu'il ne dispose pas d'une majorité absolue au niveau parlementaire, et donc il n'est pas encore garanti que cette stratégie visant à donner un nouveau souffle au gouvernement et à la législature de manière plus générale sera payante. Néanmoins, il semblerait que ce soit une stratégie nécessaire pour tenter, à minima, de redonner ce nouvel élan.
Eh bien, Benjamin Biard, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, politologue au CRISP. Merci et au revoir.